C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Dandy. Auteur Joseph Mankiewicz, cinéaste, scénariste, producteur, 1909-1993, américain, hétérosexuel, politique, gauche. Œuvre All About Eve, film 1950. Personnage Margot Channing. Interprète Betty Davis. En art, il n'est pas vrai que qui perd gagne. Cette idée date de la gloire posthume d'écrivain à la Baudelaire et de la maudite expression de poète maudit, inventée par Baudelaire qui au demeurant était célèbre. On a fini par croire que la victoire en art ne pouvait être que posthume. Si la croyance a pris, c'est qu'il y a plus d'écrivains ratés que de réussis. Une conception pareille les console, la postérité sera leur vengeance. Eh bien, non seulement je m'y oppose, préférant que les artistes soient heureux vivants, mais je le conteste. Édouard Manet, Rubens, Picasso, Rossini, Victor Hugo, Jean Racine ont réussi socialement en plus d'artistiquement. De même, Joseph Mankiewicz et son chef-d'œuvre « All About Eve » sitôt sorti, le film a été un succès critique et public, et il a obtenu 6 Oscars. « All About Eve », c'est en fait la célèbre histoire de Madame du Deffand et de Julie de l'Espinasse. Au XVIIIe siècle, Marie du Deffand, amie d'Horace Walpole et de Voltaire avec qui elle a eu une longue et délicieuse correspondance, a tenu un salon. Elle y a accueilli une jeune provinciale aux yeux baissés, à la mine modeste, trop baissée, trop modeste. Madame du Deffand s'est rendue compte en tard que la jeune fille avait intrigué et Julie de l'Espinasse ouvre un salon qui démode celui de Madame du Deffand à qui elle devait tout. Cette histoire a commencé dans les grottes et se poursuivra jusqu'à la fin des temps. Dans la période contemporaine, je pourrais raconter comment, dans un jury littéraire d'automne, une pédante de collège qui se croit une romancière importante a cajolé un vieil écrivain qui avait fait publier son premier livre jusqu'à ce qu'il la fasse admettre dans ce jury où elle s'est empressée de le trahir. All About Eve raconte l'histoire d'une jeune ambitieuse qui se fait embaucher comme assistante d'une grande actrice de théâtre et qui la dupe si bien qu'elle finit par se faire embaucher par elle, d'abord comme assistante, après quoi elle devient sa doublure par traîtrise et finit par lui voler un rôle et gagner un prix d'interprétation à sa place. Margot Channing a été doublée par sa doublure. Eve était le serpent. Pour parler de Margot Channing, je reçois Éric Libiot, critique de cinéma et rédacteur en chef culture de L'Express. Éric Libiot, à quoi ressemble Margot Channing physiquement ?
Bon, on a l'impression qu'elle ressemble et qu'elle ressemblera toujours à Bette Davis, qu'il y a des rôles comme ça qui collent à la peau des comédiennes. Après, c'est un personnage qui montre qu'il y a toujours plus rotor, plus pervers, plus ambitieux que soi. Comme vous le disiez en introduction, c'est un personnage qui existe depuis la nuit des temps et qui existera encore très longtemps. Vous en avez raconté un exemple sous forme anecdotique et littéraire. Voilà, c'est un personnage qui ressemble à énormément d'ambitieux et d'ambitieuses qui, là en l'occurrence au théâtre chez Mankiewicz, mais on peut dans tous les milieux artistiques et sans doute professionnels trouver des Margot Channing.
Alors, nous faisons sa connaissance dans le film, racontez-moi un peu ce qui se passe dans une loge où elle est en train de se démaquiller.
Voilà, et elle a déjà un masque, le masque cher à Mankiewicz, qu'on retrouvera partout, notamment dans Le Limier, qui est sans doute son film le plus connu et son dernier film. Elle sort de scène, donc elle se démaquille, et puis on y voit déjà un monstre sacré, une femme assez autoritaire, qui décide de tout, qui a sa cour autour d'elle, et entre en scène, et dans la loge, la petite Ève, tout est perdu et qui lui demande et qui lui en tout cas lui avoue son admiration et qui essaye d'être auprès d'elle comme elle le sera pendant tout le film.
Alors dans le film il nous est dit, et ça devait être probablement, vous me direz ça, à peu près l'âge de Betty Davis, Margot Channing a 40 ans et on nous dit que Eve en a 32, ce qui m'a assez frappé parce que c'est pas si jeune, on pourrait penser que c'est une ambitieuse pourrait être beaucoup plus jeune.
Oui, il faut juste faire attention au fait que tout ce qui est dit dans le film, on ne sait pas trop si c'est vrai. Mankiewicz adore les illusions, les faux semblants, c'est toujours dans ses films et dans La Comtesse en pieds nus notamment où il a porté ça à un degré très très haut, des gens qui racontent, il y a beaucoup de flashbacks, il y a des points de vue, c'est des personnages différents qui disent ben voilà, j'ai connu un tel et voilà ce qui s'est passé, etc., etc. Sans qu'on sache vraiment, parce que ça l'intéresse de ce jeu de miroir, si ce qu'ils disent est vrai ou pas. En tout cas, c'est tellement subjectif qu'on peut éventuellement de temps en temps remettre en doute ce qu'ils affirment. Donc l'âge des uns et des autres peut être aussi remis en question.
Il est aussi dit qu'au tout début, dans cette scène où elle se démaquille, qu'elle vient du Sud. Je ne sais pas si ça a une importance, en tout cas, elle n'a pas d'accent. Elle a une réplique assez drôle, elle dit « L'amour est une chose dont nous ne manquons pas dans le Sud ».
Oui, alors c'est vrai que Mankiewicz, il vient pas de là, hein, puisqu'il vient d'Europe.
C'est une famille immigrée.
C'est son frère qui l'a amené, son frère qui est grand scénariste, hein, scénariste de Citizen Kane de Wells, quand même, ce qui n'est pas rien.
Herman, c'est ça ?
Voilà, exactement, Herman. Quant à Mankiewicz, il est passé par la France, il a travaillé un peu après avoir fui l'Allemagne, et puis il est arrivé aux États-Unis, il a travaillé avec Lubitsch, il a été producteur, etc., etc. Donc ce personnage du Sud, on peut sans doute aussi le voir comme un personnage, puisqu'il y a toujours et même aujourd'hui encore la différence entre les villes de l'Est et de l'Ouest, plutôt Hollywood d'un côté et puis New York de l'autre, plutôt urbain, assez bourgeois, assez cultivé, et souvent les régions du Sud plus redneck. Donc on peut voir là une différence de classe sociale. Je pense que c'était une façon pour Mankiewicz de dire qu'on pouvait aussi arriver, mais il y avait l'idée que Margot Channing transcende sa condition de base.
Et c'est une grande gueule, pour employer une expression un peu vive, mais elle l'emploie elle-même. Elle le dit à un moment, c'est juste moi et ma grande gueule. C'est une femme qui parle beaucoup, qui est volubile, qui est spirituelle et mordante.
Oui, c'est pour ça que ce rôle est à jamais accolé à Bette Davis, parce que c'était effectivement une grande gueule aussi, même si au départ, Mankiewicz voulait Claudette Colbert, qui est une actrice sans doute plus pimpante. On l'avait vu dans New York Miami de Capra. Rétrospectivement, c'est un peu étrange d'ailleurs comme choix, parce qu'on imagine pas d'autres actrices que Bette Davis et Claudette Colbert, avec son petit minois, avec son côté un peu charmant. Je vois pas trop comment est-ce qu'elle aurait pu interpréter une rôle d'une vacharde, quand même, pour bien dire ce qui est. Oui, Bette Davis, c'était une grande gueule. Alors, ce qui est toujours assez marrant, c'est d'essayer de comprendre l'envers du décor, l'expression, c'est que Bette Davis, à l'époque, elle était un peu en dessous. Elle a eu une grande période dans les années 30. C'était la comédienne absolue. C'était une femme qui était très, dans un jeu très expressif, un peu assez proche du théâtre, de la théâtralisation des rôles. Et puis, le cinéma ne voulait plus tellement ce type d'actrice après dans les années 50, enfin dans les années 45-50, après-guerre en tout cas. Et donc, elle a connu un petit passage à vide jusqu'à ce qu'elle rencontre ce rôle de Margot Channing. Et là, elle est remontée et puis elle a fait une carrière absolument magnifique. Je me suis demandé, puisque le film de Mankiewicz, il y a Bette Davis, et puis il y a Eve qui prend la place de Bette Davis, et puis il y a une autre actrice à la fin qui prend la place de Eve. Je me suis demandé si Margot Channing avait elle aussi en amont pris la place de quelqu'un, on ne saura jamais, mais raison. on peut sans doute l'imaginer.
Ce qui est intéressant, c'est que donc arrive dites-nous un peu ce qui arrive. Donc Eve Harrington arrive dans la loge de maquillage, elle s'insinue auprès de Eve, et qu'est-ce qui se passe à peu près précisément?
Et puis elle essaye de charmer son auditoire, c'est-à-dire que évidemment Margot Channing étant une actrice, elle aime les compliments. Eve n'en est pas avare, et comme elle trouve une alliée là la meilleure amie de Margot Channing, une alliée qui c'est elle qui l'a introduite dans la loge. Du coup, elle va aussi se servir de cette femme qui est la femme du dramaturge. Donc, ce sont des amis assez intimes. Et petit à petit, elle va tisser sa toile. C'est vraiment ça. Elle va tendre la perche. Elle va faire en sorte que Margot Channing morde à l'hameçon. Je sais pas quelle métaphore on peut employer, mais en tout cas, voilà, elle va petit à petit se sentir indispensable auprès de Margot Channing. Elle va être sa secrétaire, sa fidèle, et de plus en plus, et jusqu'à la trahison ultime.
Et comment se passe la trahison ?
Oh ben, la trahison, ça c'est des jeux pervers de Mankiewicz, parce que c'est un petit peu compliqué. En fait, elle va être la doublure de Margot Channing, et puis elle va faire en sorte de monter un stratagème pour que elle s'impose et que Margot Channing ne joue pas ce rôle et que ce soit la doublure. C'est là où c'est intéressant d'ailleurs, parce que il n'y a qu'au théâtre qu'il y a des doublures. Au cinéma, il n'y en a pas. Donc ce film ne pouvait se situer que dans le milieu du théâtre. Or, on sait que Mankiewicz n'est pas un homme de théâtre. C'est un homme de dialogue. C'est un homme de drame. Mathieu, c'est un littéraire, il adore il a adapté Shakespeare, etc. Mais c'est quand même un homme de cinéma. Et on peut imaginer aussi qu'il aurait voulu que ce Cette histoire se passe dans les milieux de Hollywood et c'est aussi une façon pour lui de prendre la distance. Mais il est bien évident que c'est le cinéma qu'on voit sous les yeux. C'est aussi le théâtre, mais c'est le cinéma qu'il traite. En tout cas, c'est ce miroir aux alouettes qu'est Hollywood qu'il est en train de mettre en scène, ça c'est sûr.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a une espèce d'inversion de la perception, en tout cas, qu'on peut avoir des personnages. C'est-à-dire que au début, on voit Margot Channing, qui est donc cette grande gueule spirituelle, qui est une emmerdeuse, qui est une capricieuse et qui est une star, et on a un peu tendance à pas l'aimer et à penser que cette brave Anne Baxter, qui joue le rôle d'Ève, est très sympathique. Et d'ailleurs, elle ne se méfie pas. C'est-à-dire, elle se méfie un tout petit peu au début parce qu'elle aime pas les compliments, puis après, elle cède très vite.
Oui, effectivement, elle se méfie pas, Margot Channing, mais on peut imaginer que c'est un personnage qui revient à la réalité des choses, en fait. Elle était star, elle était adulée, elle était dans un autre monde, elle était dans une bulle, et tout d'un coup, l'arrivée de Ève, elle revient à la réalité des choses, elle revient à l'amitié, au mariage, à l'amour, etc. Elle redécouvre tout ça, et à la fin, elle est presque contente de ce qui s'est passé. Enfin, elle voue à Ève toujours un peu de ressentiment, et puis elle aimerait bien se venger d'elle. Et d'ailleurs, Ève se fera elle aussi trahir. Mais elle n'est pas mécontente de ce qui lui est arrivé, finalement, Margot Channing. Elle retrouve ses amis, de l'amour, son mari et tout ça. C'est vraiment quelqu'un qui revient à la réalité. C'est aussi une façon pour Mankiewicz de dire attention à toutes ces illusions qui vous font perdre de vue le sens des réalités de la vie.
D'ailleurs, dans une voix off qui est sur un des derniers DVD français du film, Mankiewicz dit cette phrase que je trouve extraordinaire: Margot traîne son manteau de vison comme un poncho.
Ouais, c'est magnifique.
C'est beau, hein.
Ouais, comme expression. D'ailleurs, dans la première scène dans la loge, le manteau est par terre. C'est Ève qui le ramasse comme un tas de chiffons. Et le manteau, on le revoit après beaucoup dans les soirées. Il y a tout un jeu comme ça de on range le manteau, on le prend les uns les autres. Enfin, il y a une espèce de symbolique comme ça du manteau de vison qui représente la réussite que Mankiewicz joue comme une espèce de valse, un peu comme la ronde de Ophuls.
D'ailleurs, à un moment, Ève dit en anglais « The show must go on » et Karen, qui est là, celle dont vous parliez tout à l'heure, la femme du dramaturge et son ami, lui répond « No, Margot must go on ».
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on sent bien que c'est quand même le cinéma, c'est-à-dire que la starification aux États-Unis, évidemment, c'est Hollywood, c'est pas le théâtre. Le théâtre, c'est encore un milieu assez intellectuel, c'est pas un milieu très populaire. Donc toute cette idée de star et la façon dont le public pouvait aduler les uns et les autres, Hollywood, la machine à rêve, c'est le cinéma. Et on sent bien que par cette phrase, c'est effectivement le cinéma que Mankiewicz voulait mordre.
Qu'est-ce qui caractérise, Éric Libiot, d'après vous, le jeu de Bette Davis dans le rôle de Margot Channing? Vous disiez que c'était une actrice de stylisation.
C'est une actrice, qui théâtralise beaucoup. Elle aurait pu être excessivement bonne dans l'expressionnisme allemand, par exemple, parce que elle a une gueule, elle a des expressions, elle est très expressive, et elle a un jeu ou un surjeu qui correspondait bien au cinéma. Juste après le cinéma muet, quoi, le cinéma parlant, où on n'était pas encore, on cherchait encore la façon de jouer. Évidemment, jusqu'à 1927, cinéma muet, c'était des acteurs qui s'exprimaient, qui à force de grimaces et d'expressions un peu surjouées. Et puis après le son, on a longtemps cherché un jeu tout à fait précis pour le son, pour les dialogues, etc. Et puis quand arrive un dialoguiste comme Mankiewicz et puis une actrice comme Bette Davis, et ben il y a un mariage entre les deux. Mais c'est vrai qu'elle est souvent un peu dans l'exagération.
Alors je ne sais pas si c'est dans ce film ou dans tous ces films, mais dans ce film, elle a, il me semble-t-il, quelque chose de très intéressant qui a un rapport à la lenteur. C'est-à-dire qu'elle commence toujours ses répliques et les scènes calmes, elle parle très lentement et tout d'un coup, quand quelque chose lui vient à l'esprit et qui est désagréable, elle se met à parler plus vite et on a l'impression que là, elle veut nous désigner une espèce d'impulsivité de Margot Channing ou quelque chose comme ça, non?
Je crois que, de toute manière, toute la mise en scène de Mankiewicz, que ce soit dans la direction d'acteur ou la mise en scène proprement dite, le jeu des plans, du montage et tout ça, on est toujours sur le double. C'est-à-dire que là, ce que vous dites très justement sur le jeu de Bette Davis, c'est une façon aussi d'être constamment... On ne sait pas si la réalité, c'est quand elle parle doucement ou quand elle parle vite ou le jeu inversement. Et c'est systématiquement ça. Il y a constamment du double partout dans ce film-là.
Nous allons maintenant entendre un extrait du film de Mankiewicz et c'est donc Bette Davis qui interprète le rôle de Margot Channing.
The kid, the junior that is, will be down in a minute unless you'd like to take her drink up to her.
I can get a fresh one. Karen, you're a Gibson girl.
Thank you.
The general atmosphere is very Macbethish. What has or is about to happen?
What is he talking about?
Macbeth.
We know you. We've seen you like this before. Is it over or is it just beginning? Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
Mademoiselle, je vous remercie infiniment pour l'invitation.
Enchanté to you, too. I distinctly remember Addison crossing you off my guest list. What are you doing here?
Dear Margot, you were an unforgettable Peter Pan. You must play it again soon. You remember Miss Caswell,
don't you? I do not. How do you do?
We've never met. Maybe that's why.
Miss Caswell is an actress, a graduate of the Copacabana School of Dramatic Art.
Éric Libio, dans la première partie de ce personnage en personne, nous parlions, et vous parliez à très juste titre, des voix off. Expliquez-moi quelles sont les voix off qui racontent partie après partie le film.
Il y a la voix off de George Saunders, hein, qui est le critique, le dramaturge. C'est assez drôle parce que ça commence exactement comme dans le film Laura de Preminger, où c'est aussi un auteur, enfin là c'est un auteur de théâtre, mais qui présente Laura comme ça en disant voilà la première fois que j'ai connu Laura, et puis le film part. Et ce film là c'est aussi ça. Et il y a dans cette voix off évidemment une façon très cinématographique de raconter, puisqu'il n'y a qu'au cinéma où on peut être vraiment dans la voix off, c'est-à-dire on voit des images et puis il y a une voix off, donc il y a un décalage.
Pardon de vous interrompre, vous qui savez tout en matière de cinéma, qui a inventé la voix off?
Alors là, j'en sais rien. C'est très compliqué de savoir au cinéma quel est le premier.
Ah,
je peux pas vous le dire. En tout cas, ce que je sais, c'est que la voix off est parfois assez pernicieuse, assez vicieuse même. Et c'est Hitchcock sans doute le plus pervers de tous les cinéastes qui a inventé le flashback et donc la voix off menteuse dans Le Grand Alibi avec Marlène Dietrich, où ce qu'on voyait à l'écran et ce que Marlène Dietrich racontait n'était pas la même chose.
Parce qu'on dit que c'est Guitry dans Le Roman d'un tricheur. Il faudrait vérifier les dates. Ça vous paraît plausible?
C'est possible, et ce serait pas étonnant qu'un homme de théâtre ait inventé la voix off. C'est possible. Hein. C'était en quelle année le roman du tricheur? C'est dans les années 30? Oui, sans doute. Mais il y a eu beaucoup de films noirs américains qui aussi ont procédé avec la voix off, avec des personnages qui étaient déjà morts ou des personnages sur le point de mourir. Ou voilà. Donc je sais pas si c'est Guitry. En tout cas, c'est dans les années 30. Et Mankiewicz s'en est beaucoup servi. Un de ses films précédents qui s'appelait Chaîne conjugale, il l'emploie, mais alors d'une façon encore plus impressionnante que dans Eve, puisque c'est des femmes qui racontent à chaque fois leur. Elles se demandent laquelle de ces trois femmes est trompée par son mari, et donc elles racontent la même histoire, mais de trois points de vue. En tout cas, cette voix off, évidemment procédé très littéraire qui intéresse Mankiewicz, et je reviens à votre question, pardon, de cette parenthèse.
Donc
c'est George Saunders,
le critique dramatique,
comédien anglais absolument sublime, formidable, plein de classe. Voilà, c'est une espèce de David Niven un peu pervers, George Saunders, qu'on a vu aussi chez Hitchcock, etc. C'est grand monsieur. Il y a donc l'ami de Margot Channing dont on parlait tout à l'heure, c'est
Karen,
c'est une de celles qui raconte le plus. Et puis Margot Channing elle-même est une seule fois, parce qu'il y a sept voix off si je ne m'abuse, donc il y a trois de Saunders, trois de la copine et une seule de Margot Channing. Et là aussi, si on regarde vraiment comment le film est fabriqué, il n'y a pas forcément de chronologie ou en tout cas de suite logique à ces gros morceaux de flashback et de voix off. Une façon pour Mankiewicz de perdre un peu le spectateur, d'essayer de lui dire ben voilà, ce que vous voyez, c'est peut-être pas tout à fait la réalité. En tout cas, je m'en amuse et amusez-vous avec moi.
Évidemment, la seule personnage importante qui n'est pas de voix off, c'est Eve, parce qu'évidemment, ça changerait tout et ça serait presque impossible.
Voilà, c'est dans Eve 2, c'est dans la suite, en fait.
Mais qu'est-ce qu'apporte la voix off de Margot elle-même quand elle raconte l'histoire? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique?
Là, on se rend compte que elle a un peu compris. Là, on se rend compte qu'elle redescend de son nuage, puisqu'elle parle comme les autres. C'est-à-dire que jusqu'à présent, elle était en dehors des sphères du commun des mortels, j'allais dire, c'était une star. Donc les stars, elles sont ailleurs. Hein. Les stars, elles sont dans le ciel, elles sont dans un nuage, elles sont au-dessus des hommes et des femmes. Et là, reprenant un procédé narratif comme les autres personnages, eh bien, elle explique, elle raconte aux uns et aux autres ce qu'elle est devenue. C'est une façon pour elle de redescendre sur Terre et de se mettre à hauteur du spectateur et des autres personnages.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure les jeux très brillants de Mankiewicz dans ses dialogues. Et au début du film, Margot Channing dit que Eve est sincère. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond, c'est vrai, qu'elle adore réellement le théâtre, que c'est à la fois une ambitieuse qui est une manipulatrice et qu'en même temps, elle adore réellement le théâtre?
Oui, je pense qu'elle adore vraiment le théâtre, d'abord parce qu'elle y est plutôt bonne. Même si le char magie, qu'elle a eu un prix, on peut reconnaître ses qualités de comédienne. Mais au premier sens du terme, Eve se prend au jeu. C'est-à-dire qu'elle s'invente aussi une vie. On apprendra à un moment donné, quand elle raconte la première fois où elle a vu Margot Channing, elle est allée au théâtre avec son père, etc. Et puis on apprendra que c'est faux, en fait, qu'elle a totalement inventé ça. Mais peut-être en est-elle elle-même persuadée que c'était... Et ça, on ne le saura jamais. Et les comédiennes se persuadent d'être un personnage. Enfin, quand elles sont un personnage, elles se persuadent d'être l'autre. Et le jeu se fait comme ça. Donc à un moment donné, cette névrose, cette espèce de pathologie fait que on ne sait plus si on est soi-même ou si on est le personnage. Je pense qu'il y a un jeu là-dessus. La sincérité de Eve, parfois elle paraît juste, quoi.
Et de la même façon, la brutalité par moment de Margot Channing est compensée par une espèce de sentimentalisme. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que elle boit assez, on la voit souvent dans le film boire, et en particulier il y a une scène très très fameuse où il y a une réception où elle dit « Fasten your seatbelts, it's gonna be a bumpy night », où elle boit là son martini, et elle, au bout d'un moment elle est saoule, elle fait jouer par un vieux russe qui est à côté sur le piano le Liebestraum de Liszt 5 ou 6 fois.
Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est dans la représentation, dans l'humour, qui met en scène aussi sa propre vie, et donc les personnages qu'elle a ou les gens qu'elle a autour d'elle, elle passe sa vie à ça, elle passe sa vie à être au-dessus des autres, à côté, et à mener tout le monde à la baguette, jusqu'au moment où dans une scène où elle est avec Karen, elle lui avoue qu'elle aimerait bien quand même. Alors ça peut être pris comme une espèce de façon un peu misogyne parfois de Mankiewicz de faire en sorte que l'actrice elle est bien quand elle est femme et quand elle est auprès d'un mari et quand elle est au foyer, tout ça. Il y a tout un discours parfois un peu étrange. Alors c'est 1950, d'accord, mais et en même temps on sait que Mankiewicz adorait les comédiennes, adorait les personnages féminins, il les a fait jouer, donc on peut pas non plus le taxer de misogynie, mais ce discours est un peu étrange. Comme vous disiez, elle revient à des choses plus sentimentales. C'est bien beau la reconnaissance, c'est bien beau d'être star, mais parfois être auprès de son mari et être femme, comme elle dit, c'est pas si mal non plus.
Alors, la chose la plus extraordinaire du film, du personnage, c'est la côté du personnage, c'est que Bette Davis n'a pas eu l'Oscar pour le rôle.
Non, elle a eu le prix d'interprétation à Cannes quand même. Mais elle l'avait déjà eu pour La vie d'Elisabeth, de Michael Curtis, Elisabeth d'Angleterre. Non, elle l'a pas eu. Le film l'a eu. C'est d'ailleurs une des rares fois, c'est la troisième fois, je crois, qu'un metteur en scène a eu, d'une année sur l'autre, prix pour le chaîne conjugale, le meilleur film et meilleur réalisateur deux fois de suite, ce qui est relativement rare. John Ford l'a fait, Mankiewicz et Iñárritu, également plus près de nous. Mais non, elle a pas eu l'Oscar à cette époque-là.
Et alors, il y a une espèce de contamination de la vie par là, parce que je crois que on dit que c'est en partie dû au fait que Anne Baxter a fait une scène parce qu'elle elle devait être nommée pour le deuxième rôle et elle a trépigné pour être nommée pour le premier rôle, un peu comme dans le film, et le fait qu'il y ait eu deux actrices du même film a nuit aux deux.
C'est ce que j'allais vous dire, voilà comment la réalité rejoint la fiction et la fiction rejoint la réalité, c'est que Anne Baxter s'est pris pour Eve et effectivement a été jalouse du fait que... Mais c'est toujours très compliqué quand il y a deux rôles, on peut difficilement nominer les deux actrices pour le meilleur rôle. Donc il y a un second rôle, mais ça peut être dépréciatif ou en tout cas imaginé comme tel par l'actrice qui est nommée pour le meilleur second rôle. Et là, effectivement, on est là en plein dans Eve, quoi. Mankiewicz avait touché au cœur des relations humaines dès lors qu'il s'agit de cette reconnaissance, de l'égocentrisme des comédiennes, etc.
Le personnage combatif, dirons-nous, de Margot Channing, a inventé quelqu'un qui a bien aussi les femmes combatives, c'est Pedro Almodovar. Il a réalisé Tout sur ma mère en 1999, et le titre est évidemment déjà un écho à All About Eve, Tout sur Eve. Et on aperçoit d'ailleurs un extrait du film de Monkey X dans Tout sur ma mère.
Oui, on en trouve d'ailleurs dans chacune d'Almodovar, je crois qu'il y a un extrait film. Enfin, d'un film. C'est vrai qu'il a une passion pour les mélodrames, pour les actrices, pour les grands films des années 50. Et ce film-là, c'est en tout cas, parmi les grands films sur le cinéma, il y en a eu beaucoup quand même des films sur le cinéma. Et Monkey X, on a fait un autre, hein, La Comtesse aux pieds nus, quelques années plus tard. Ce film-là reste quand même le grand film, enfin, sur la jalousie, la trahison, l'envie d'être star et d'écraser celui qui est derrière. Oui.
C'était une bonne période parce que je crois qu'à une année près, ou peut-être c'est la même année qu'est sorti Sunset Boulevard, non ? Qui est aussi un très beau film sur le cinéma.
Exactement, avec Gloria Swanson, qui est là un hommage au cinéma muet, avec William Holden et Gloria Swanson. C'est effectivement 48, 49, 50 dans ces eaux-là. Et puis, c'est vrai que Gloria Swanson était, elle, une grande actrice du muet. Donc, elle jouait quasiment son propre rôle dans une espèce de déchéance absolument extraordinaire, totalement baroque. Et puis, Bette Davis, on la retrouvera quelques années plus tard. Je cite ce film parce que je l'adore. C'est Qu'est-il arrivé à Baby Jane avec son ennemi juré, John Crawford. Et je vous conseille de lire les... c'est Le Monde qui avait fait un papier il y a quelques années sur les vacheries que s'envoyaient John Crawford et Bette Davis. C'est un monument de drôlerie, de méchanceté. C'était deux grandes actrices qui se détestaient. Et là encore, le cinéma et la réalité se confondaient.
Et ont été rattrapés par la télé, puisqu'il y a eu une série, vous devez savoir, sur l'an dernier, sur cette querelle entre les deux acteurs, qui s'appelle Feud.
Exactement.
Eric Libion annonce en 2019 une reprise, non pas cinématographique, mais théâtrale, d'All About Eve, dans le West End à Londres, avec, dans le rôle de Margot Channing, Cate Blanchett. Qu'est-ce que vous en dites ?
Eh bien, j'en dis que c'est une bonne idée. Cate Blanchett, c'est une actrice absolument formidable. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre que Bette Davis dans ce rôle-là. Et Cate Blanchett est parfois peut-être un peu trop diaphane, un peu trop belle, un peu trop longiligne, un peu trop comme ça, avec une allure absolument extraordinaire. Après, c'est une très grande comédienne, hein, donc je peux imaginer qu'elle en fera un personnage. Mais c'est marrant comme parfois le physique quand même, et qu'on soit beau, moche, gros, petit, le physique parfois impose à un personnage une certaine direction, quoi, une certaine, d'abord des souvenirs, une mémoire, une façon de jouer, une façon d'être prégnant. Et là, le personnage de Margot Channing, il fallait qu'elle soit un peu vacharde, un peu pas forcément très belle, parce que Bette Davis n'avait pas une beauté au sens classique du terme dans ces années-là, avec des yeux un peu globuleux et tout ça. Donc elle n'était pas belle femme, elle avait une gueule, mais elle n'était pas belle femme comme on pouvait l'entendre. Mais voilà, c'est peut-être son physique qui a marqué à ce point aussi ce rôle. Et du coup, de prendre une actrice comme Cate Blanchett, qui est assez à l'opposé de Bette Davis, je ne sais pas si on arrivera à avoir les mêmes émotions et la même force que Bette Davis dans Eve.
Eric Libio, que vous a appris le personnage de Margot Channing ?
Que le cinéma est décidément un art absolument magnifique, que Mankiewicz est un grand metteur en scène, et comme je vous le disais, qu'il faut se méfier des gens qui viennent vous demander des conseils, parce qu'ils sont toujours là à vous trahir. D'ailleurs, Charles, je voulais vous demander un conseil. Que faut-il faire pour faire de la radio ?
C'était Personnage en personne, le 31e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Batman, créé par Bob Kane et Bill Finger dans Detective Comics en 1939.
T'es assis là-haut, paradis, de l'autre côté de ma vie, le paradis acquis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de recherche et de documentation Daphné Abgral, prise de son Éric Boisset.
Tous les jours, paradis. De l'autre côté de la rue.
Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
Perdu. Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces